Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue, je crois que Jean-François l'a rappelé au début, ceux peut-être qui sont de passage, ceux des nouveaux aussi, je vois des têtes nouvelles, alors je ne sais pas si vous êtes de passage. J'ai vu tout à l'heure Carole qui est nouvelle et qui vient d'une ville que j'ai bien connue, de Chartres, pas Chartres de Bretagne, mais Chartres en Eure-et-Loire. J'ai passé ma jeunesse, alors... Soyez vraiment les bienvenus. C'est vrai que on se fait du bien dans quelques temps. On commémorera le 500e anniversaire de la publication des thèses de Luther, hein, on va dire de la réforme pour simplifier. Et je lisais encore hier soir que Luther était un chante, je ne sais plus comment on l'appelait, le rossignol de je ne sais pas quoi. Et il a composé, c'est vrai, beaucoup de cantiques, considérant que à travers la louange, notre âme aussi est consolée, et que la louange était un excellent moyen de connaissance de la parole, pour peu que les paroles de la Bible soient chantées. Je crois que ce matin, nous avons eu des chants qui étaient proches de ce que nous dit la parole de Dieu. Et quand on chante, moi souvent, j'aime beaucoup des chants qui reprennent des psaumes, par exemple, c'est une mémorisation extraordinaire, et du coup, la parole de Dieu est disponible dans nos cœurs au moment, dans les situations où on en a besoin. Hein, parce que notre mémoire, c'est peut-être des cases, mais à un moment, des circonstances surgissent dans nos vies, et là, nos réflexes peuvent l'emporter. Hein, je vais en dire quelques mots. Je ne suis pas dans le sujet que je vais aborder avec vous ce matin, mais j'avais ça. Je crois que vraiment, la louange est un moment important. Parce que, ben voilà, quand c'est des paroles qui honorent Dieu, qui glorifie Dieu, ben il y a quelque chose qui s'établit, parce que nous sommes ces créatures divines, déchues mais rachetées, hein, mais rachetées et restaurées, en tout cas en cours de restauration, parce que la restauration, ça demande un peu de temps. Le salut, le sauvetage, c'est quelque chose d'assez puissant, instantané, mais ensuite, quand on est sauvé, il y a tout un travail de restauration, et ça demande un peu plus de temps, c'est délicat, mais le Seigneur sait s'y prendre avec chacun, parce qu'il sait toutes choses. Le titre de mon message ce matin, ce sera ça, il sait toutes choses. Le Seigneur, Seigneur, tu sais toutes choses. Vous savez qui a dit ça? C'est Pierre. Et je vais lire ce passage, vraiment j'étais bouleversé, ce sera aussi le thème de ma méditation pour le mois de septembre. Seigneur, tu sais toutes choses. Et nous allons suivre, alors ça y est, je suis déjà plus dans mon ordre, mais ce n'est pas grave. Seigneur, tu sais toutes choses. Ce cri de Pierre, nous allons voir comment il intervient. Ce cri du cœur de Pierre à son maître, à son Jésus. Seigneur, tu sais toutes choses. Et il ajoute, Myriam disait dans sa prière tout à l'heure, Seigneur, pardon, parce que peut-être ce n'est pas t'aimer, mais tu vas m'apprendre. Et Pierre a appris auprès de son Seigneur, et il a pu lui dire, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Alors, ça vous paraît simple peut-être comme ça, mais quand on voit le parcours de Pierre, et quand on voit le parcours de plusieurs ici, c'est formidable. Il y a vraiment un abandon. Je vais revenir là-dessus. Dieu, en effet, a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, de sorte que nous le cherchons, quoi qu'en tâtonnant, dit la parole de Dieu. Les chemins pour le découvrir sont variés, jusqu'à ce que le Seigneur, lui, dans sa grâce, se révèle à nos cœurs. Plusieurs ont vécu cela ici, j'espère un grand nombre, mais je sais que pour un certain nombre, ce n'est pas fait encore. Il tâtonne encore. Mais lorsque le Seigneur se révèle à nos cœurs, alors un changement est opéré dans nos cœurs. Parce que les techniques de comportement vont de l'extérieur vers l'intérieur, essayent de tripoter à l'intérieur, mais Dieu, lui, tape au cœur et transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, quand ces choses-là sont faites dans nos vies, on le sait. On le sait. Et nous ne voyons plus la vie de la même manière. Oui, une connaissance nouvelle vient, les circonstances de la vie nous parlent de manière différente, nous réalisons par exemple que le hasard n'existe pas.
et commence une nouvelle vie. Avec le Seigneur, avec le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous saisissons le pardon des péchés que nous abandonnons, normalement. Si nous avons compris ce qu'était le péché, si le Seigneur nous l'a montré, si nous avons compris que nous étions pardonnés, nous n'avons plus envie d'y retourner. Nous saisissons aussi la sanctification, nous la désirons, nous la poursuivons, nous la recherchons, et je le crois pour un certain nombre. Et dans cette marche, nous recherchons à plaire à Dieu, à être conformes à ce que nous avons compris qu'il veut que nous soyons. Dans cette marche, nous butons parfois dans nos traits de caractère, nos modes de fonctionnement installés depuis des années demeurent. C'est difficile de reconnaître ça, et pourtant on voit bien des moments dans nos vies, après 5, 10, 15, 20, 30 années des fois de conversion, il y a des trucs qui sont là, on se dit ça y est, c'est encore ça. On s'en aperçoit juste après, j'ai encore fonctionné comme le vieux Robert. Ouais. Ces traits-là, c'est compliqué parce que, à la fois nous le savons, mais on ne sait pas comment faire, et les autres le voient bien. J'allais dire, ils ne voient que ça. Ils ne voient que ça. Cela peut nous, parfois nous désespérons de sortir de là. Je ne parle pas de péchés grossiers, je ne parle pas de choses horribles, d'abominations qui feraient la une des journaux, je ne parle pas de ça. Clairement condamnable celle-là, mais une façon d'être. Pour certains, c'est des pirouettes pour se sortir d'affaires. Oh non, pas des péchés, mais le péché. La chair, cette nature si tenace que le baptême a engloutie par la foi, mais qui a la vie dure. Et c'est cela que je voudrais qu'on partage ce matin à travers le parcours de Pierre. Et nous allons faire ça. Nous allons regarder le parcours de Pierre. C'est face à face avec Jésus. Les moments d'illumination, les moments d'humiliation, jusqu'à ce moment de douloureuse mais merveilleuse restauration. Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors nous allons lire, pour commencer, dans Jean 21, les versets 1 à 22. Jean 21. Donc ce passage, Jésus est ressuscité, il est apparu à Marie-Madeleine, puis déjà il s'est présenté à deux reprises au milieu des siens, au milieu des disciples, en leur annonçant « La paix soit avec vous ». Thomas, qui n'a pas cru, a cru, parce qu'il a vu, il a touché. Et là, c'est, je crois, la dernière fois que Jésus apparaîtra à ses disciples. Et il apparaîtra dans une circonstance, on est encore au bord de la mer, et il y a encore une séance de pêche et un barbecue. Jean 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Le leader est là. Il va pêcher, lui. Les autres suivent. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Peut-être ça vous rappelle quelque chose, on va y revenir tout à l'heure. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Il n'a pas dit qu'il a marché sur l'eau, là. Il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez !» et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » C'est un texte extrêmement riche et j'en ai souligné déjà quelques aspects. On a toute la personnalité de Pierre. Et on va reprendre, on va regarder un peu depuis le début les rencontres de Pierre avec Jésus. Je crois que la première rencontre, c'est lors d'une autre pêche miraculeuse qui nous est rapportée dans Luc 5, les versets 4 à 11. Je ne vais pas relire. Quoique, on va les lire quand même un petit peu. Allons voir ça. Luc 5, parce qu'il y a une différence entre ces deux textes. Donc Luc 5, verset 4, « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Vous notez la différence entre les deux ? Quel parcours déjà ? La première fois que Jésus dit à Pierre, « Jette le filet », Pierre lui dit, « Mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Il a quelque chose quand même à dire. On pourrait dire, c'est légitime, c'est un maître pêcheur. C'est le maître, hein. Pierre, c'est un patron pêcheur. Hein. La deuxième fois, sur l'ordre du Seigneur, donc, ils jetèrent le filet. Ça paraît une petite différence, c'est gros déjà. Il y a eu beaucoup de travail entre les deux, on va le voir. Mais lors de cette première rencontre, Pierre, c'est curieux, il saisit déjà la seigneurie de Christ. Et surtout, la présence de Jésus lui révèle sa nature. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et ça, c'est le commencement de tout. C'est le commencement de tout. Il n'y a point de salut si on ne voit pas ces choses-là. Pierre, dès la première rencontre, Jésus, le Fils de Dieu, est là. Il n'a pas toute la révélation. Mais la présence de Dieu lui révèle son péché. Il n'est pas plus pécheur à cet instant-là que 3 minutes avant. Simplement, maintenant, la lumière vient. La lumière vient. Jésus est la lumière. Il s'approche, il est là. ça éclaire mes ténèbres. Et Pierre n'a pas la solution encore. Donc il dit, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Nous savons, Jésus ne va pas laisser Pierre là. Un peu plus tard, Jésus demandera à ses disciples, que dit-on de moi ? Il a déjà marché avec eux, que dit-on de moi ? Les indices ceci, les indices cela, tu es Élie, tu es le prophète. Et vous ? Jésus nous pointe. Mais vous, alors pour vous, qui suis-je ? Et là nous avons Pierre. Pierre, incontestablement un leader. Pierre, il y va. Il y va, Pierre. On verra, il ne se connaît pas lui-même, mais il y va. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ose. Et là, c'est le Saint-Esprit qui l'a. Jésus va lui dire, heureux es-tu, car ce n'est pas ni la chair ni le sang. Mais mon Père, lui parle du Père, qui t'a révélé cela. Ce n'est pas l'école de théologie, c'est mon Père qui te l'a révélé. L'œuvre de Dieu. Retire-toi, car je suis un homme pécheur. Mais maintenant, le Père vient dans un cœur qui craint. Un cœur qui se reconnaît pécheur. Le Saint-Esprit peut agir. Tu es le Christ. Tu es celui qui a été oint. Tu es celui qui a été envoyé. Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Voilà la confession. Je le rappelais dimanche. Voilà le roc, le rocher sur lequel l'Église sera bâtie. Sur la confession de Pierre, pas sur Pierre comme chef de l'Église, sur la confession fondamentale du chrétien, tu es le Christ, toi cet homme sans défaut, sans tâche, tu es le Christ, l'envoyé de Dieu, celui, le Dieu qui vient venu parmi nous. Confession extraordinaire, suivie de quelques minutes après, de la puissance de la chair qui se manifeste en Pierre, et la puissance de la chair, je rappelle, ce n'est pas des conduites inconvenantes forcément, c'est l'âme, c'est la puissance de l'âme qui gouverne, le sentiment qui gouverne. Jésus, immédiatement après cette confession de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, leur dire, je devrais souffrir, j'irai à Jérusalem et je serai mis à mort, etc., etc., etc. Et là, Pierre dit, ah, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Ça, c'est la chair, c'est l'âme de Pierre, un beau sentiment, mais en fait, rempli de l'envie d'avoir Jésus pour moi. Jésus, l'homme charismatique, pour moi, celui qui fait des miracles, celui qui m'aime, celui qui me console incontestablement. Mais pour moi, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et vous connaissez les paroles de Jésus, arrière de moi, terribles ces paroles. Arrière de moi, Satan. Pierre, Satan n'est pas rentré en Pierre. Mais arrière de moi, cette pensée de l'ennemi, qui ne veut pas que le salut s'opère. Arrière de moi. Pierre, son âme, elle est puissante. Il est, on vous dirait, il est généreux, c'est un type. Oh, c'est un bon vivant, il a du cœur. Oui, il a de l'âme pour l'instant. Il aura du cœur. Quand ce cœur sera brisé. Mais là, c'est son âme, avec ses sentiments. À Dieu ne plaise. Je crois que ça nous parle de nos cheminements. Ne désespérons pas, si de nous-mêmes, mais ne désespérons pas. Lorsque nous voyons ce combat qu'il y a, on peut avoir des moments d'inspiration, des moments de présence du Seigneur, et puis, une minute après, notre âme, notre sagesse humaine, charnelle, diabolique, qui vient se manifester par un conseil qui est tout à fait humain, qui ne veut pas aller à la croix, qui ne veut pas aller à la croix, qui ne veut pas entendre parler de la croix. Ce monde ne veut pas entendre parler à la croix. Nous avons chanté « La croix devant moi, le monde derrière moi ». Puisse-t-il en être ainsi ? Autre moment fort de face à face, la transfiguration. Jésus prend ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et monte, les emmène sur la montagne. Et là, c'est un moment merveilleux, hein ? Lorsque les uns les autres, on a pu vivre des moments de communion particulière, de présence du Saint-Esprit, de révélation particulière de Dieu. Oui, chacun, C'est pas réservé aux apôtres, à des grands ministères, je ne sais quoi. Chacun, on peut, vu ses moments, ses gouttes, et on en a envie. Et ils sont là sur la montagne. Moïse, Élie, Jésus. Pierre, il a toujours quelque chose à dire, Pierre. Il a toujours quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'on est bien là? Dressons trois tentes. Oh, il est humble. Les tentes, c'est pas pour lui. C'est pour Moïse, Élie et Jésus. Et j'aime ce passage, on va aller le voir un petit peu. Matthieu 17, versets 1 à 9. Je ne vais pas tout lire le passage, mais... Dès le verset 3, donc, et voici, Matthieu 17, verset 3, et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Tout de suite, dès l'apparition, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore. Ah, Pierre. Une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Arrêtez de parler. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Il a fallu ça pour que Pierre se taise. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Il est prêtre, il est le prophète, il est le roi. Nouvelle expérience extraordinaire, une révélation, un privilège extraordinaire. Certains parmi nous ont connu, sont appelés à connaître. Soupirons après ces choses. Ne les convoitons pas. Le Seigneur veut des moments d'intimité avec nous. Il veut l'intimité. Et il donne. Une fois par un songe, une révélation. Ne convoitons pas ces choses. Et n'oublions pas que, suite à la transfiguration, le Seigneur nous amène très très vite sur cette terre. Ce qu'il nous donne, ce n'est pas pour une espèce de jouissance. C'est pour le connaître mieux, parce que nous avons besoin de le connaître mieux pour pouvoir vivre sur cette terre et manifester la richesse infiniment variée de Dieu par son Église. Il y a pour Pierre aussi des moments de, je dirais, de confirmation. Dans Jean 6, vous savez, ce passage extrêmement fort de tension avec le peuple, il y a eu la multiplication des pains, il y a eu beaucoup de miracles. Et puis Jésus, au fur et à mesure, en nous voyant dans l'évangile de Jean, la tension de plus en plus forte avec le monde religieux, mais avec aussi ceux qu'ils suivent. Parce qu'au fur et à mesure, il annonce qu'il va aller à Jérusalem et qu'il devra mourir. Et il est dit dans ce passage, un bon nombre de disciples, quand il parle, « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair, boit mon sang. » Il dit, « Ces paroles sont dures à entendre, qui peut l'écouter ?» Et un certain nombre de disciples s'en vont, de disciples, c'est-à-dire de gens qui avaient suivi Jésus déjà depuis longtemps, suivent, et Jésus va leur dire tout ce que je vous ai dit, c'est esprit et vie, la chair ne sert de rien. Il annonce des choses très importantes quant à son sacrifice qui nous conduira à la scène qui nous demandera de commémorer. Mais beaucoup ne comprennent pas. Des disciples quittent. C'est trop dur d'entendre ces choses-là. Tant qu'on parlait de miracles, de choses agréables, de multiplication des pains, alors chacun selon son niveau spirituel, de salut que nous délivre des Romains, ça allait, mais maintenant... Certains pressentent que c'est une voie qui est en train de prendre Jésus, qui n'est pas très glorieuse. Alors, beaucoup le quittent. Et Jésus a cette parole à ses disciples. Et vous, voulez-vous me quitter aussi? Et là, c'est encore Pierre. Pierre, il ne sait pas tout, lui. C'est Jésus qui sait tout. Mais Mais il a cette intuition, cette révélation. Seigneur, mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Là, c'est extrêmement important, ce passage. À qui irions-nous? Pierre n'a pas tout compris, mais il y a une chose qu'il sait. C'est que ce qu'il a confessé déjà, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est maintenant ancré chez lui. Qu'il n'y a pas d'autre salut, qu'il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Vous voyez, ça, c'est des choses, des fois, on a du mal. On a de telles puissances de raisonnement. Dire, Seigneur, je sais que c'est toi. Il y a encore plein de choses que je ne comprends pas. Mais je sais. Ça, la révélation, c'est cela. Si ces choses sont ancrées dans nos cœurs, si ça a été scellé par le Saint-Esprit, ça ne partira pas. Toute connaissance humaine, c'est pour ça qu'il y a des stades. Ce qu'il faut rechercher, c'est que le Seigneur vraiment vienne imprimer cela dans notre cœur. On peut connaître toute la théologie du salut par substitution, par rachat, tout ce que vous voulez. Mais si ce n'est pas gravé dans le cœur, on ne tiendra pas dans les coups durs. Il faut qu'il y ait un sceau qui soit mis, le sceau du Saint-Esprit, qui est posé là. On ne peut plus douter. On pourra chanter alors, quand Dieu a parlé, je ne peux plus douter. Et Pierre confirme. Il faut bien voir que c'est important cette parole, parce que beaucoup sont ébranlés. Beaucoup sont ébranlés en Jean 6. Ce que dit Jésus, mais attendez, c'est n'importe quoi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Comment? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez bien là que le raisonnement, l'intelligence humaine, elle craque là. Elle craque là. Et Pierre va avoir un rôle là, important. Il n'a peut-être pas plus compris tout que les autres. Mais il dit, à qui irions-nous? Maintenant que nous t'avons connu, maintenant que nous t'avons suivi, nous ne pouvons plus aller ailleurs. Frères et sœurs, si vous avez rencontré Christ, vous ne pouvez plus aller ailleurs. On ne peut plus. Abandonnons nos autres, nos citernes crevassées. Que ce soit des gris-gris, des bouddhas, des je ne sais pas quoi, des machins qui traînent. Comment avoir goûté à cette source et aller boire encore ailleurs? On n'a pas besoin d'avoir tout compris. La foi, ce n'est pas un non-sens, la foi. C'est un sceau qui est mis dans les cœurs. Dans le cheminement de Pierre encore, il y aura ce dernier repas, le lavement des pieds. Le récit nous est rapporté dans Jean 13, mais en fait le contexte de ce récit nous est donné dans Luc 22. À partir du verset 31, il y a un débat entre les disciples pour savoir, tenez-vous bien, ils sont avec Jésus, hein. Il y a un débat entre les disciples pour savoir qui est le plus grand. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va laver les pieds de ses disciples. Je ne sais pas qui débattait. On nous disait un débat entre les disciples. Alors, menant l'enquête, on aurait quelques noms peut-être. Par exemple, ça va vous surprendre, mais Jacques et Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait, qui est sur la poitrine. C'est aussi celui, n'oublions pas, qui, sous l'instigation de la mère, on ne sait pas bien, mais ils ont pas dit non. Avec Jacques et Jean, viennent voir Jésus pour dire, bon, si tu pouvais nous réserver une place de ministre d'État, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Ils ne sont pas encore disputés pour savoir lequel serait à droite, à gauche, mais enfin, pour l'instant, ils viennent ensemble. La mère essaye de caser les deux. Peut-être ils étaient dans ce débat-là. Pierre, c'est quand même pas exclu qu'il ait été dans ce débat-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, C'est lui que Jésus interpelle en lui disant, c'est dans ce passage-là, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que tu ne tombes pas. » Non, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Je ne sais pas comment j'aurais réagi dans un débat pour savoir qui était le plus grand, si Jésus avait dit « Robert, Robert, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi afin que ta voix ne défaille pas. » Je ne sais pas ce que j'aurais... Je vois ce que répondu Pierre. Il me dit « Tu ne devais pas être mieux. » Pierre, il a quand même encore quelque chose à dire. Il va dire ceci. Non mais, j'aime bien représenter un peu la scène quand même. Il y a les disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans. Ils savent, ils ont compris quand même qu'il allait aller à la croix là. Mais ils n'y croient pas, ils n'ont pas réalisé encore. Et ils sont en train de débattre pour savoir qui est le plus grand. Ils sont en train de se partager les postes. Jésus avertit quand même, avec un amour extraordinaire, mais avec solennité, Pierre. Satan t'a réclamé, Pierre. C'est-à-dire, Satan, il veut te détruire. Il veut te faire chuter. Mais j'ai prié pour toi déjà. Pierre comprend rien. Il va dire, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois me connaître. Frères et sœurs, c'est encourageant. C'est ce Pierre-là que Jésus va transformer. Et il a réussi. C'est ce Pierre-là que Jésus va transformer. Moi, je vais vous dire, ça m'a souvent et ça m'encourage souvent. Il ne se connaît pas lui-même, Pierre. L'orgueil précède la ruine, quelques versets là-dessus. L'orgueil précède la ruine. Et la ruine va commencer pour la vie de Pierre à Gethsémané. Ça commence à s'effriter là. Je crois qu'à partir de là, il n'aura plus de paroles comme ça. À Gethsémané, Jésus s'éloigne à un jet de pierre. Il y a une séparation qui se fait là, avec ses disciples. Il les a suivis, mais là, il y a quelque chose. Le secours de l'homme. Il leur demande de prier, ils n'y arrivent pas. Il y a un esprit d'assoupissement, l'éloignement, la tristesse, l'incompréhension qui vient s'installer à Gethsémané entre Jésus et ses disciples. Là, ils ne peuvent plus suivre. L'assoupissement, ce n'est pas comme le sommeil. Il y a un sommeil qui est paisible. L'assoupissement, c'est comme une fuite dans le sommeil, finalement. C'est trop. C'est trop pour eux. Et quand ils se réveillent, Jésus revient 2-3 fois, veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Ils ne peuvent pas. Le caïd, là déjà, ça s'effrite. S'effrite, il est assoupi. Et ils ne comprennent plus. Il y a une tristesse. Les textes sont forts, hein. Il y a une tristesse qui envahit. Mon âme est triste en mourir, va dire Jésus. Ça devait se voir aussi, quoi. La ruine humaine arrive pour Pierre avec maintenant le procès. Le procès, Pierre. Une femme, une servante, un serviteur à 3 reprises. On lui dit, mais tu étais avec lui? Et non. Non, non. Il abandonne son maître. Non seulement il l'abandonne, il aurait pu s'enfuir discrètement, il le renie avec imprécation. À ce moment, je pense que Pierre pourrait s'approprier ces paroles que Paul nous donnera. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais n'oublions pas qu'au moment de cette ruine absolue pour Pierre, cette ruine absolue, il y a une chose qu'il a pu recevoir. C'est le regard de Jésus qui s'est posé sur lui. Il est sorti, il a pleuré amèrement. Et Jésus, sortant, le croise et regarde Pierre. Je crois que ça a été un moment clé, le moment où sa vie bascule aussi. Il ne peut pas être plus bas là. Jésus te regarde toujours. Il ne t'accuse pas. Jésus, le regard de Jésus sur nos vies, où qu'elles soient, dans la pire des trahisons. Tu as marché pendant des années et tu as chuté, tu as abandonné. Regarde encore Jésus. Il a encore quelque chose pour toi. Je crois que dans la vie de Pierre, là, on est rendu au bas. On est rendu au bas. Mais maintenant, nous te voyons Pierre lorsque le tombeau est vide. Incrédulité, puis foi et joie. Et d'abord incrédule quand même. Il y a une femme qui a été voir, mais enfin, c'est qu'une femme, quoi. Mais il va voir quand même. C'est Pierre, ça. Il va voir, vous savez, j'aime beaucoup ce passage, ils courent tous les deux avec Jean. Jean est plus jeune physiquement, alors il arrive le premier. Mais Jean, Pierre rentre, il arrive après, mais il rentre. Il y va. Et il témoigne. La rencontre avec Jésus ressuscité à deux reprises, la paix, la joie, la paix vient maintenant dans la vie de Pierre. Et puis, il y a cet épisode, la seconde pêche miraculeuse qu'on a lue. Je l'ai souligné, là, cette fois-ci, il y a une obéissance immédiate. C'est très touchant, je trouve que c'est des passages très touchants. La première fois, mes maîtres, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, nous les professionnels, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Bon, on a une réserve, mais on va quand même le faire. La deuxième fois, c'est « ils jetèrent donc le filet », puisque Jésus l'a dit, on le fait. Cette rencontre maintenant sur la plage. Tu sais toute chose et moi je ne sais plus rien. Ça c'est pas écrit, mais je pense que c'est... Il en était là, Pierre. Toi, Seigneur, tu sais toute chose et moi je ne sais plus rien. Mais tu sais que je t'aime et je vais te le dire, je t'aime. Pierre peut dire son amour pour Jésus parce que cette fois-ci, il sait combien Jésus l'aime. Il a compris que c'était cet amour, ce qu'était cet amour. Il a saisi que c'est Jésus qui nous a aimés le premier. C'est un point extrêmement clé de la vie de Pierre. Il est devant son Seigneur, il reconnaît, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Et moi, Pierre, Robert, peut-être plusieurs ici, je ne sais plus rien. Si ce n'est, Seigneur, je t'aime. Et Seigneur, tu le sais, je reconnais, je comprends maintenant pourquoi il était nécessaire que tu meures à la croix. Je reconnais maintenant, il y a tout ça dans « Sans toi, je ne peux rien, mais rien dû faire. » Je reconnais qu'il faut que tu croisses et que je diminue. Je reconnais que je suis vide de mes connaissances, de mes présomptions, de mes enthousiasmes et que j'ai besoin de tout recevoir de toi. Les yeux du cœur de Pierre sont maintenant illuminés à travers ces trois questions que Jésus lui a posées. Alors, on va relire ce passage. Peut-être beaucoup le connaissent bien. Verset 15, Jean 21, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci ?» Alors il faut savoir que dans ces trois questions que pose Jésus à Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Nous avons, vous savez, en français un seul mot. Mais les deux premières fois, Jésus utilise le verbe agapeo. C'est-à-dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes de cet amour dont moi je vous ai aimé ? Cet amour qui se donne sans retour, qui n'attend rien. Et vous savez que Pierre ne répond pas « Jésus, je te agapeo ». Il répond « Jésus, je te filéo ». Jésus, je t'aime d'une amitié humaine. J'en suis là. Les deux premières fois. Jésus dit « Est-ce que tu m'aimes comme je t'ai aimé ?» Pierre dit « Seigneur, je t'aime. Je te filéo. Tu es mon ami. » La deuxième fois, pareil. La troisième fois, et c'est, je crois que c'est aussi une des causes de la tristesse de Pierre. Jésus se met à la portée de Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes, Philéo ? Mais je t'aime, Philéo. Pierre, il ne sait plus rien. Dans ces trois, vous savez, ces trois, Pierre, m'aimes-tu ? Vous notez que le premier, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? C'est-à-dire plus que tes... renvoie à la parole de Pierre. Si tous t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai pas. Attendez. Est-ce que vous réalisez ? Vous entendez Jésus nous dire ça ? Robert, tu te crois toujours plus intelligent que les autres. Crois avoir tout compris. Il n'y a que Jésus qui peut dire des choses comme ça et nous restaurer. La restauration de Pierre, elle se fait là. Elle se fait là. Dans la grâce et la vérité. Jésus sait nous dire la vérité. Il sait nous dire, bon, il nous enseigne. Il nous enseigne. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Il y a tout ça dans cette rencontre. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci, Jésus ? Pierre répond en vérité, j'ai de l'affection pour toi. Oui, Pierre aime Jésus depuis le début, mais maintenant il comprend comment il a été aimé de Dieu. Pierre exprime son amour en retour. Et c'est tout, mais c'est merveilleux. Mais faisons cela. Nous ne pouvons aimer Dieu qu'en retour de son amour. Qu'en retour de son amour. Mais c'est merveilleux. Et ça veut dire qu'on a besoin de comprendre davantage quel est l'amour de Dieu. Cette troisième question, c'est vrai, est sûrement difficile pour Pierre, mais elle va achever la restauration. Parce que Pierre était malade de ne pas se connaître lui-même, finalement. Dans toutes ses attitudes, y compris la trahison, et c'est le cas pour nos vies. Vous avez bien compris que c'est nos vies qui nous intéressent, là. C'est le cas de nos vies. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes tant que Jésus, avec sa précision et sa douceur, va avoir mis le doigt sur tout cela pour que nous puissions vraiment là être libérés. Vraiment être libérés. Nous allons être vides de nous-mêmes. Il va pouvoir remplir. Jésus n'a pas besoin de fans, ni de passionnés, ni de militants, mais de vases de terre qu'il remplira de son esprit. Je dis, Pierre est prêt là, maintenant. Il est prêt pour la Pentecôte à ce moment-là. Il est prêt pour la Pentecôte à ce moment-là. Est-on prêt comme Pierre dans notre relation avec Jésus pour que le Saint-Esprit puisse descendre et opérer des miracles ? Oui, c'est là que Pierre est prêt pour être envoyé. Vidé de lui-même, plus d'illusions, déclarant son amour pour Jésus, en retour de l'amour qu'il a reçu. Alors nous voyons que ce vase de terre va être rempli de l'Esprit de Dieu, il va glorifier son Maître. À la Pentecôte, c'est une évidence. Et dans cette période de naissance de l'Église, autorité, puissance, possible pour un cœur humble qui a été humilié. Dieu ne prend pas de risque. Ne prend pas de risque. Pierre a été humilié, il va le remplir. Et Pierre va pouvoir donner ses discours de la Pentecôte à 3 reprises. Discours très simple. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que le Père a ressuscité. Nous en sommes témoins. Voilà, point barre. Et les cœurs sont vivement touchés. Parce qu'il y a une autorité dans ce cœur qui a été vidé de lui-même. Dans ce vase de terre rempli par Dieu. Et ça ne trompe pas. Il y a une démonstration de puissance qui n'est plus de la rhétorique, qui n'est plus des effets de manche, qui est la puissance de Dieu qui agit dans ce vase de terre. Le vase de terre rempli de l'Esprit va glorifier son Maître. Il va obéir à la vision reçue pour annoncer l'Évangile aux païens. C'est la visite chez Corneille. Ce vase de terre rempli du Saint-Esprit va pouvoir travailler maintenant avec ses frères. Avec ses frères. C'est le Concile de Jérusalem. Il devient une pierre, une autorité sur laquelle les autres vont s'appuyer. Paul et Barnabas, Jacques, le frère du Seigneur venu à Christ après Pierre. C'est lui, finalement, Jacques, qui à Jérusalem va conclure, va avoir cette parole de sagesse pour donner des instructions aux païens qui vont venir. Je parle de ça pour que vous compreniez, que nous comprenions combien Pierre est transformé. Pierre aurait pu dire, bah, attendez, c'est à moi de prendre la parole, c'est moi quand même que... Non, non. Il y a Paul et Barnabas qui vont témoigner de leur tournée missionnaire. Et il nous est dit que Jacques, à un moment, prend la parole et va citer Pierre. Pierre n'a pas parlé. Pierre transformé. Il peut travailler avec ses frères maintenant. Pierre qui se laisse reprendre par Paul. On rappelle quand même que Paul se qualifie lui-même le moindre des apôtres parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Que Pierre aurait dit, Paul, bon, t'es gentil de me reprendre, mais enfin, regarde un peu à toi, est-ce que c'est pas des fois notre attitude quand on est repris par un frère ou une sœur? Dis donc, t'as combien d'années de conversion, toi? Pierre va se laisser reprendre par Paul. Il va reconnaître, humiliant si vous voulez, Pierre, celui qui a été à la Pentecôte, va, à l'occasion d'une rencontre avec des païens convertis, se conduire librement. Et à l'arrivée de frères de l'entourage de Jacques, donc des judaïsants, il ne sait plus comment se mettre. Lui, l'apôtre, l'autorité, frères et sœurs, ne nous décourageons pas quand, après notre marche chrétienne, notre maturité, peut-être des responsabilités dans l'Église, des aspects de notre personnalité, de notre caractère, ne sont pas encore totalement guéris. Reconnaissons, venons, ne perdons plus de temps à cacher cela. Dire Seigneur, Seigneur, ouais, ouais. Pierre se laisse reprendre en public par Paul. Pierre transformé, non? Pierre, je fais très vite, un homme parmi ses frères, c'est lui qui va dire dans la première lettre à Pierre, moi, ancien comme eux, paissez le troupeau qui vous a été confié, il se souvient des paroles de Jésus, il la transmet, parce que c'est ça, à ça que Dieu l'a appelé, paissez le troupeau, non en dominant sur eux, mais en étant des exemples, etc. Moi, ancien comme eux, va dire Pierre, il aurait pu se prévaloir d'une autorité que je crois personne ne lui aurait contestée. Moi, ancien comme eux, cela me parle beaucoup sur, c'est vrai, la conduite, la gouvernance d'une église locale. Moi, ancien comme eux, paissant le troupeau que le Seigneur leur a confié, non pas contrainte, mais volontairement. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, qu'on puisse dire au Seigneur qu'on l'aime, que tout ce qui reste à régler dans nos vies ne nous empêche pas de lui dire « Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je... » C'est ça que j'ai voulu vous transmettre ce matin. Considérons la vie de Pierre. La nôtre doit ressembler à bien des égards. Seigneur, je suis où j'en suis, mais je t'aime. En conclusion, je voudrais reprendre quelques points. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Un autre, dans Proverbes 16, 18, dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Cette parole, elle est toute la Bible, puisque c'est bien l'orgueil qui a précédé la chute en Éden. Restons attachés à notre maître, à celui qui a été fait Seigneur. Pierre a avancé dans sa marche et sa maturité chrétienne parce qu'il a toujours tourné son regard vers Jésus. Regard de foi pour marcher sur l'eau. Cri de détresse quand il s'est enfoncé. Regard accepté après la trahison. Regard saisi qui l'amène à plonger dans l'eau cette fois-ci pour rejoindre son maître sur le rivage. Et qui va permettre cette rencontre. Pierre, m'aimes-tu ? Et cette question, le Seigneur nous la pose et nous pouvons répondre ce matin avec Pierre. Seigneur, tu sais toutes choses. Moi, je ne sais plus rien, ça c'est moi qui ajoute. Mais tu sais que je t'aime. Puisse le Seigneur entendre cet aveu, cette capitulation confiante à laquelle il désire nous conduire pour faire de nous des instruments dans ses mains et pour son œuvre. Alors, après avoir mené notre vie selon notre pensée, y compris dans des œuvres destinées à lui plaire, nous serons conduits là où nous ne voulions pas aller. Je n'ai pas développé cet aspect-là, mais Jésus va dire cela. Jusqu'à présent, tu te saignais et tu faisais les œuvres que tu voulais. Dans l'église, tu avais des enthousiastes. Un jour viendra où un autre te saisira et te conduira là où tu ne voulais pas aller. Il avait à lui dire aussi, ce qui a été long, vous le reconnaissez, « Toi, suis-moi ». Il a dû lui redire. Et que vraiment ce matin, nous recevions cela de Jésus. Tu sais toutes choses, Seigneur. Mais je t'aime, je veux te suivre, et tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Nous prions simplement. Seigneur notre Dieu,